en dire et des nouvelles,
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Il restera le juge d'instruction qui a osé convoquer comme témoin un président de la République en exercice. C'était en 2001, lorsque la presse a appelé l'affaire des HLM de la ville de Paris. Jacques Chirac était alors à l'Élysée, protégé par son immunité. Éric Alphen est donc avec nous aujourd'hui, et s'il est toujours magistrat, aujourd'hui à la Cour d'appel de Paris, le cofondateur de l'association anticorruption Anticor s'est aussi installé dans l'intervalle comme un écrivain, auteur notamment de Polar. Le dernier en date nous fait entrer dans les arcanes d'une campagne présidentielle. Il est truffé de scènes d'action, de dialogues, de réflexions sur la justice et la politique. Et le monde de la politique, il le connaît aussi de l'intérieur, puisqu'il s'est présenté deux fois, mais sans succès, aux élections législatives. La première sous la bannière du mouvement de Jean-Pierre Chevènement, la seconde en 2017 sous les couleurs de La République en marche. La faiblesse du maillon, le nouveau roman d'Éric Alphen, est paru aux éditions Rivage, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Éric Alphen.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Votre précédent roman s'appelait La Piste du Temps. Il a été publié en 2010. Cela fait donc 10 ans que vous n'aviez rien publié. Vous avez fait une petite pause?
Pas tant que ça, en fait. D'abord, celui-ci paraît en 2020, mais j'ai commencé à l'écrire en 2017. Donc il faut quand même le temps de l'écrire. Ça fait gagner 3 ans sur les 10 ans de pause. Et puis, je me suis essayé à écrire une pièce de théâtre que j'ai réécrit, présenté, montré. J'ai suivi les conseils parce que c'est compliqué de monter une pièce de théâtre. Et là, je vais m'y remettre encore. Donc voilà, c'est du temps. Puis j'ai essayé de réfléchir un peu à une série, mais là aussi c'est compliqué de le monter. Et puis vous y faisiez allusion à l'instant. Il y a eu la campagne présidentielle puis législative de 2017. Donc pendant tout ce temps-là, j'ai pas tellement écrit, évidemment. Alors, sans compter le métier de juge.
Alors, comme dans, oui, ce qui n'est pas tout à fait négligeable, effectivement, voilà. Il faut le préciser. Alors, comme dans La Piste du Temps, comme dans Maquillage, votre roman précédent, on retrouve vos deux héros, le juge d'instruction Jonas Barthes et le grand flic Max Bizek. On les retrouve finalement assez tard dans le livre. Ils sont absents de la première partie et ensuite, ils vont arriver, débouler de façon assez légère au début, assez subreptice. On se dit presque finalement que ce sont des personnages secondaires finalement dans La Faiblesse du Maillon.
Bah dans la vie, c'est ça. On pense qu'on croise quelqu'un qui a une réputation, une notoriété, de l'entre-gens. Et puis on s'aperçoit que finalement, c'est un homme comme vous et moi. Donc mon flic et mon juge, ils sont importants à un moment donné dans certaines histoires. Et puis j'ai trouvé ça amusant de les faire revenir, mais effectivement pas comme personnages principaux.
Oui, par la petite porte, quoi.
À tel point qu'à un moment, j'ai failli pas les reprendre. Et puis je me suis dit quand même, c'est plus sympa s'ils reviennent.
Oui, c'est-à-dire c'est en cours d'écriture qu'ils se sont imposés à vous ?
Voilà. Il y a plusieurs façons d'écrire. Il y en a qui se lancent dans le roman que quand ils savent le début, le milieu, la fin, les méandres, etc. Et puis il y a ceux dont je fais partie qui aiment bien se lancer sur une idée, une situation, et qui après laissent l'esprit travailler en toute liberté, en se faisant éventuellement, en se mettant des contraintes. Et donc c'est au début, effectivement, je suis parti sur ce couple, lui qui est dans une campagne présidentielle, elle qui est à l'office des stupes, qui est commissaire de police. Et au départ, je voulais pas forcément faire revenir Bizek et Barthes. Et puis, après, il y a l'histoire qui évolue. Et bon, il va arriver quelques problèmes à notre commissaire Olivia. Et du coup, elle va être suivie par l'inspection. Je me suis dit que, tiens, à l'inspection pouvait revenir Bizek. Et c'est comme ça qu'il revient.
Donc l'inspection, c'est l'IGPN, à la police des polices, ce qu'on appelle familièrement les bœufs carottes.
Absolument.
Donc Bizek, il y a quand même eu pas mal de complications, visiblement, en 10 ans. Il est un petit peu au bout du rouleau, quand même.
Et il est totalement au bout du rouleau. Ça m'a amusé aussi de le faire revenir de façon moins... Il a perdu de la vitalité. Il a perdu un peu de la rapidité intellectuelle. Il se souvient plus de tout,
ouais.
Il est un peu fatigué. Et voilà, il est vraiment au bout du rouleau. Pour moi, c'est vraiment sa dernière enquête. Peut-être qu'après, il se passera d'autres choses dans sa vie. Mais
on va lui dire au revoir, là,
Bizek ? Non, on va pas lui dire au revoir, mais peut-être qu'on le reverra pas forcément en tant que flic.
Ah, bon. Voilà. Donc déjà, vous avez une petite idée pour la suite. En tout cas, heureusement pour lui, il y a une jeune femme qui s'appelle Delphine qui est à ses côtés et qui le seconde. Hein. C'est un petit peu son bâton de vieillesse, en quelque sorte. Elle a plein d'avenir, cette Delphine. On le sent aussi. Hein. Peut-être, je sais pas si pour le romancier, elle en a aussi, mais...
Alors, pour le romancier, sans doute. Dans sa vie, elle, je sais pas. Elle change de service à la fin. J'ai bien aimé cette espèce de complicité entre un vieux flic et une jeune inspectrice, sans rien de douteux ou scabreux entre deux, et ça, contrairement à d'autres personnages du livre, et ça m'a intéressé en fait.
Alors vous racontez, Eric Elfen, que son frère a dit un jour à Max Bizek, « Si tu n'avais pas été flic, tu aurais été moine. » Qu'est-ce qui rapproche les deux métiers ?
La foi, la croyance, peut-être pas forcément dans les humains, mais en tout cas dans la facilité, dans la faculté de faire en sorte de les, comment dire, de les exonérer de leurs péchés ou de leurs peines ou de leurs délits, et puis de leur donner une seconde chance, et puis également sur le fait qu'il y a quelque part l'intellectuel qui peut nous sauver. Et c'est vrai que j'ai connu pas mal de, enfin pas mal, j'ai connu quelques juges qui à un moment donné de leur carrière avaient fait une pause pour aller dans un monastère, dans un couvent, devenir moine pendant 2 ou 3 ans.
Mais là, je parlais de Max Bizek, là. Je parlais pas du juge,
non,
je parlais
mais,
du flic.
Non, mais il y a des enquêteurs, enfin voilà, juge, flic, il y a quand même le même aspect chasseur. Et du coup, c'est vrai que dans la façon dont on traque le mal, il peut y avoir une façon plus... monastique ou religieuse d'agir.
Ouais, il y a la solitude aussi. Hein. C'est un grand solitaire,
évidemment,
qui se sent un petit peu tout seul aussi, donc un petit peu comme le moine.
Et je vais revenir sur le juge, mais à un moment, on m'a quand même pas mal posé la question de savoir quel était le point commun entre le juge d'instruction et le romancier. Et la réponse, elle va de soi, c'est la solitude.
Voilà. Et au détour d'une page, vous nous faites entrer, écrivain que vous êtes, dans la tête de ce flic, dans la tête de Max Bizek, qui pense à ce qu'est, selon lui, une enquête policière. Et quand j'ai lu ces mots-là, Eric Elfen, je me suis dit que les mots que vous écrivez pouvaient aussi s'appliquer à la construction d'un roman policier. Vous gardez ça dans la tête, on va écouter l'extrait qu'on a mis en ondes. Nous sommes page 207 du livre.
Mieux qu'un ordonnancement de détails, une enquête est un puzzle. Ça fait même partie des éléments qui l'avaient au début attiré vers ce métier. Quoi de plus excitant en effet que parvenir, tel un révélateur du cachet, à relier sans effort apparent une masse d'informations disparates, que d'avoir et de donner l'impression que tout vous obéit. Mais c'est un puzzle particulier dans lequel chacune des pièces, protéiforme et surtout capricieuse, s'emboîte ou ne s'emboîte pas. Non selon son contour, sa matière ou ses caractéristiques, mais selon le doigt qui la dispose, semblable à une chanson dont les paroles se modifieraient au gré du talent et des intonations du chanteur.
On est d'accord, Eric Elfen, comme faire une enquête, écrire un polar, c'est cela, c'est écrire un puzzle, assembler des éléments disparates et donner l'impression, autrement dit, jouer avec le lecteur, que c'est l'écrivain qui commande tout ?
Alors d'abord, on joue pas avec le lecteur, on joue avec nous-mêmes, l'auteur. C'est-à-dire qu'on se met un peu au défi d'arriver avec ces multiples pièces à construire quelque chose qui tienne la route.
Donc il y a bien cette dimension puzzle, assemblage, construction.
Sauf que je dirais que c'est un puzzle un peu successif, avec les pièces qui, au fur et à mesure qu'on progresse, se présentent à vous. Elles sont pas tout de suite sur la table. On en prend quelques-unes et puis on s'aperçoit qu'il y en a d'autres derrière qu'il faut essayer d'assembler aussi. Et c'est ça que j'aime, moi, dans l'écriture, c'est cette espèce de jeu permanent entre l'auteur et ce qu'il écrit. Et donc, évidemment, après, avec le lecteur. On espère que le lecteur va être impliqué dans le jeu de la même façon que l'auteur.
Mais c'est un peu la même chose dans une instruction judiciaire, non? Il faut fouiller dans la documentation, il faut écouter les gens, il faut recouper les témoignages et construire une histoire.
Alors, la grande différence, c'est que là où l'auteur essaie de la construire, cette histoire, le juge, lui, essaie de la déconstruire. L'histoire, elle a été créée avant lui, sans lui et parfois contre lui, et elle lui est présentée d'un bloc, et là il doit essayer de la disséquer, de retirer justement ce qui peut concerner les personnages et arriver à trouver cette histoire par lui-même. Donc voilà, il y a un point commun qui est le rapport à l'histoire, mais là où l'auteur la construit, le juge essaie et le policier aussi d'ailleurs, de la déconstruire.
Alors la grande force du livre, c'est sans doute les personnages. Et vous venez d'ailleurs, Eric Elfen, d'employer le mot, parce que ces personnages, ils sont très nombreux. Alors évidemment, il y a des personnages qui sont beaucoup plus importants que d'autres, mais enfin, ils sont très nombreux, ils sont variés, et surtout, ils sont complexes. Est-ce que votre travail de magistrat vous a permis de mieux cerner la complexité des êtres humains ?
J'espère. Si je pouvais arriver à la fin de ma vie professionnelle en me disant que grâce à mon métier, j'ai un peu mieux compris les humains, je serais extrêmement heureux. Mais c'est vrai qu'il faut se méfier des histoires et des gens qui sont trop simples, des étiquettes On met une étiquette violeur, victime, braqueur, homme politique corrompu, etc. Et puis, heureusement, c'est bien souvent plus compliqué que ça. Je pense que l'un des intérêts du travail de magistrat en général, d'ailleurs, c'est d'essayer de voir de déceler de la complexité là où au départ on voyait un peu des personnages et des traits de caractère trop faits.
Mais juge d'instruction, par exemple, vous occupez plus ce poste aujourd'hui, mais vous l'avez longtemps été. Est-ce que juge d'instruction, c'est un bon poste d'observation de la société?
Je crois que c'est l'un des meilleurs, avec peut-être les médecins. Mais
ça ne donne pas une vision déformée, parce qu'on pourrait penser justement que dans la vie, il n'y a pas que des délinquants ou des criminels, même présumés.
Alors déjà, il faut savoir que la majorité des humains, vous, moi, les gens qu'on croise dans la rue, vont un jour avoir affaire à la justice. Ça peut être pour une histoire de divorce, ça peut être pour une histoire de problème avec son propriétaire ou de troubles de voisinage, ça peut être pour une histoire d'enfants maltraités. Donc très souvent, la justice va entrer dans la vie des humains. Donc là, c'est une réponse sur les juges eux-mêmes, dans leur globalité. Plus particulièrement, ce qui concerne le juge d'instruction, c'est vrai qu'on n'arrive que dans les drames, dans les histoires qui, malheureusement, pour elles, ont connu des accidents ou des choses extrêmement difficiles. Mais pour autant, c'est dans ces circonstances-là que les gens se révèlent. Donc c'est vrai qu'on voit une face des gens, mais c'est peut-être la face la plus intéressante.
Mais le juge d'instruction, il va fouiller dans le passé des gens, il va parfois fouiller dans leur carnet de chèques, dans leur carnet d'adresses, sur leur compte en banque, dans leurs relations, dans leur vie privée. Ils vont donc essayer de comprendre comment les prévenus, comment les témoins fonctionnent.
Oui, mais c'est en sens.
Ça aide à construire un personnage?
Ah ben certainement. Alors c'est vrai qu'on, pour reprendre ce que vous disiez, on voit la partie la plus sombre, peut-être, de l'humanité. Mais néanmoins, vous savez, je donne toujours des histoires parce que je trouve que c'est intéressant. Un juge d'instruction, quand il entend quelqu'un comme témoin, peut lui payer son déplacement. Ça s'appelle la taxe à témoin. Et je racontais quand j'étais dans le Nord, puisque mon premier poste était dans le Nord, je voyais beaucoup de gens qui étaient humbles, qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Il n'y en a pas un seul qui m'a demandé de lui payer la taxe à témoin. Et le seul qui m'a demandé, c'était un directeur d'hôpital qui, lui, était beaucoup plus à l'aise dans la vie. Et c'est ce genre de détails qui sont révélateurs de ce que peuvent être les humanités les plus profondes.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec Eric Alphen pour son nouveau roman La faiblesse du maillon, paru aux éditions Rivage, c'est à travers le personnage de Gustave que le lecteur entre dans votre intrigue. Gustave, c'est un jeune loup de la politique, elle fait partie du staff de campagne d'un des principaux candidats à l'élection présidentielle. Alors on ne connaît pas le nom du candidat, il n'est jamais nommé parce que tout le monde dans son entourage l'appelle le boss. Il a quand même de furieux airs d'Emmanuel Macron, Eric Alphen.
Bah, vous savez, quand on écrit, on essaie quand même un petit peu de se servir de choses qu'on connaît.
Oui.
Si j'ai pris une commissaire qui est à l'office des stupes, c'est parce que dans mes fonctions à la chambre de l'instruction, j'ai vu beaucoup d'affaires de stupéfiants. Et donc, ça m'a aidé à construire le personnage du commissaire. Et comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai également participé à deux campagnes présidentielles. Une avec Jean-Pierre Chevènement et une un petit peu avec Emmanuel Macron, puisque je faisais partie des groupes justice. Et donc, tout naturellement, je me suis servi de ce que j'ai vu pour créer le personnage de quelqu'un qui est dans le staff d'un candidat. Quant au candidat lui-même, il est évident que j'ai pris un candidat jeune, qui a moins de 40 ans, qui est dynamique, qui a un certain nombre de traits de caractère, pour reprendre ce qu'on disait, qui le rapproche beaucoup d'Emmanuel Macron. Pour autant, ce n'est pas Emmanuel Macron. Il a dit des choses que n'aurait pas dit ou que ne dirait pas Emmanuel Macron. Et il lui arrive des choses, pareillement, qui ne sont pas arrivées à Emmanuel Macron. Donc, voilà, c'est un inspirateur.
Ouais. Et puis, il y a des clins d'œil avec le lecteur quand même, parce qu'effectivement, il est jeune, il est charismatique, il est disruptif. Vous écrivez qu'il a cassé les codes de la politique. On apprend que s'il est élu à l'Élysée, il prendra un homme de droite à Matignon. Là aussi, bon, on se dit, il y a quand même quelque chose. Vous dites même qu'il est un chef à l'ancienne mode pour un nouveau monde. Alors, au-delà du sens de la formule, Eric Alphen, c'est ce que vous pensez aujourd'hui, un chef à l'ancienne mode pour un nouveau monde? C'est ça qu'est devenu Emmanuel Macron une fois élu à l'Élysée?
J'espère que le nouveau monde va venir. Pour l'instant, j'avoue être un peu déçu de ce côté-là. Mais à l'ancienne mode, oui, je pense.
Bon, il y a d'autres indices qui nous placent quand même dans la campagne présidentielle de 2017. On va écouter justement un autre extrait du livre. Alors là, on pense à Macron, donc on pense aussi à la primaire à droite, Sarkozy, Juppé, Fillon en 2017, et notamment au débat télévisé. Nous sommes page 80 de votre livre, et justement, le boss et son équipe de campagne, dont fait partie donc le personnage de Gustave, regardent le débat du deuxième tour de la primaire à droite.
Premier tournant. Après l'éjection prématurée du favori de la primaire, coulé par son agitation et son attirance pour la polémique en ces temps où le pays, déchiré par le chômage et le terrorisme, a besoin de réconciliation, se retrouve en lice deux canassons de droite, blanchis sous le harnais mais rassurants pour l'électeur. Même si tous les deux traînent une mauvaise réputation, l'un en raison de son manque de chaleur, voire de charisme, de l'habitude qu'il a de tout énoncer, grave comme fut-il, sur la même tonalité, l'autre de sa banalité prétentieuse, de son absence totale d'idées et de la petite bourgeoisie balsacienne qu'il symbolise. « Sa raie de côté est impeccable, pourtant je n'ose croire à sa victoire », dit le boss. Une fois encore, le sourire dément la fausse prudence, pour ne pas dire la pruderie des mots. C'est parce qu'il la souhaite qu'il croit dur comme fer à la victoire du pédant, de la même façon qu'il croit en sa propre bonne étoile. La meilleure voie vers le maillot jaune et que ce qu'on a voulu à chaque étape se réalise. « Ah oui, croyons !» affirme Gustave. « Sans faire semblant !» ajoute Samuel. Ils sont tous réunis dans le bureau du boss, transformé pour l'occasion en salon TV, du moins ceux qui comptent. À Nadège, Jimmy, Louis et Malik, qui forment avec Gustave et Samuel la garde rapprochée, se sont joints, ou plutôt ont été joints, Denis, le responsable du régalien, et Angelo, qui coordonne la confection du programme économique. Peu de femmes, une habitude chez le boss. Nul ne sait pourquoi. Peut-être fait-il davantage confiance aux hommes, peut-être ne le sait-il pas lui-même. Celle qui surgit, en retard comme toujours, compte pour deux. Morgane, fondatrice quelques années auparavant d'une start-up en Californie spécialisée dans l'immobilier itinérant, concept dont les contours échappent totalement à Gustave. Mais depuis peu, sa vitalité et son enthousiasme au service du mouvement, passant beaucoup de temps à écrire des messages d'adoration sur les réseaux sociaux, chauffant la salle dans certains meetings du boss façon Club Med. « Chouette, il y a du blanc, j'ai une de ces soifs, vous ne pouvez pas vous imaginer. » Tandis que Morgane se dirige vers le semblant de buffet dressé sur un bureau en bois clair, aussitôt rejointe par Louis qui, a dit-on, était son amant de passage, information que Gustave n'a pu vérifier. Les autres ne perdent pas une image du débat entre les deux prétendants. Même costume marine, même cravate vermillon. Peu de piques, peu de phrases mémorables, peu de reliefs. Quelques discordances sur le temps de travail, les questions sociétales, la sécurité. Mais dans l'ensemble, primauté de la forme sur le fond, l'élégance dynamique et creuse de l'un prenant l'ascendant sur la lourdeur surprenante de l'autre, dans ses réponses et l'articulation de sa pensée, comme si devant l'obstacle, lui, le favori initial, accusait brusquement son âge.
Bon, bref, Eric Alphen, si ce candidat éclairé au milieu ne ressemble pas à François Fillon et si ce candidat réputé pour son manque de chaleur ne fait pas un peu penser à Alain Juppé, je veux bien manger mon micro.
Non, non, mais vous avez raison, je m'en suis inspiré, mais comment dire, peu importe finalement. En fait, ce qui compte, c'est l'impression générale qui se dégage d'une scène et... À partir du moment où on parle de politique, c'est comme si je parlais de football, j'aurais forcément des personnages qui ressemblent un peu à Mbappé, à Neymar, etc. Mais c'est pas le sujet qui compte finalement, c'est la façon dont l'auteur le brosse son portrait. C'est comme un peintre, je veux dire, une pomme est une pomme. Ce qui compte, c'est la façon dont on décrit la pomme et dont on la dessine ou la peint. C'est vrai qu'ils peuvent ressembler à Fillon et Juppé, mais ce que j'espère surtout, c'est que dans 50 ou 100 ans, si par bonheur, quelqu'un qui se promène sur les quais, si les quais existent encore, et qui trouve mon livre chez un bouquiniste et le lise et se dit « ça se passait comme ça dans les années 2020 en France », je serais non pas le plus heureux des hommes parce que je n'existerais plus, mais quelque part... D'où je serai content.
C'est-à-dire que vous voulez que le livre soit le reflet d'une réalité historique ou politique, en tout cas.
Ben, je pense que c'est quand même la mission de la littérature.
Un témoignage.
Pas de témoignage, mais de révélateur, si je puis dire. Quand on lit Balzac, Ce qui est intéressant, je me compare pas du tout à Balzac, hein, mais ce qui est intéressant aussi dans Balzac, au-delà des personnages, c'est de voir comment on vivait dans cette, notamment à Paris et dans certains coins de France à cette époque-là, la classe moyenne, les aspirations. Quand Rastignac dit contemple Paris en disant que c'est lui qui va conquérir la ville, on se dit il y avait des gens qui étaient comme ça à l'époque. Il y en a peut-être encore maintenant, des carriéristes, des gens qui ont de l'ambition. Et je pense que l'ambition de tout auteur, ça devrait être de donner au lecteur la façon dont un mode d'emploi sur la façon dont on vivait à une époque donnée. Alors, vous savez, il y avait un apprenti écrivain qui est allé voir un jour Borges, et qui lui a demandé en quelque sorte une recette pour écrire un livre.
Ouais.
Et Borges lui a répondu « Raconte ton village et rends-le universel ». C'est un peu ça. On raconte son village. Et moi, mon village, c'est un peu la justice, c'est un peu la police, c'est un peu la politique. Et rends-le universel, il faut que ça devienne intemporel, finalement.
Et dans votre village, il y a effectivement des ambitieux, il y a des Rastignac. Mais plus que le mot d'ambition, quand vous évoquez la campagne électorale, le mot que vous mettez en avant, Eric Alphen, c'est le mot « désir ». Il faut désirer la victoire. C'est ça le ressort principal d'une campagne électorale ?
Je pense très franchement que oui. C'est un peu basique et un peu simple, mais je pense que ceux qui gagnent, c'est ceux qui veulent le plus gagner. On a souvent reproché à certains, par exemple, je pense à Jacques Delors, par exemple, de ne pas avoir suffisamment eu envie d'y aller.
Oui,
envie
mais d'être président.
Et ben oui, mais s'il y était allé, je pense qu'il aurait perdu. Et si je retiens quelque chose de mes semaines dans une campagne présidentielle ou législative, c'est vraiment qu'il faut le vouloir pour gagner. Alors on pourrait me dire, si tu n'as pas été élu député, peut-être que tu l'as pas assez voulu, mais oui. Je dirais que oui, peut-être finalement.
Alors dans les campagnes électorales, il y a toujours ce qu'on appelle des boules puantes, hein, comme on dit, des affaires, des scandales. Alors quand votre personnage, Gustave, reçoit un SMS anonyme lourd de menaces, il commence à s'inquiéter, il se demande si c'est lui qui est visé ou bien si c'est le boss, si c'est son candidat. Alors il veut à tout prix faire identifier le numéro de portable. Évidemment, et ça tombe bien puisque sa compagne, donc la fameuse Olivia, dont vous avez déjà cité le nom tout à l'heure, Olivia Guimard, est flic, elle est commissaire des stupes plus précisément, même si leur couple bat un petit peu de l'aile depuis quelques temps. Et donc il va demander évidemment à Olivia de se renseigner pour lui. Olivia, c'est une femme, et on est assez étonné parce qu'il y a beaucoup de femmes commissaires dans les séries policières en France, aux États-Unis, et pourtant vous écrivez, Eric Alphen, dans la police, la parité n'est pas avérée, aux hommes, les affectations d'hommes, aux femmes, ce qui n'intéresse pas ces messieurs. C'est vrai ça ?
Je trouve, oui. C'est-à-dire que, je cite d'ailleurs dans le livre quelques exemples, c'est vrai qu'à la brigade des mineurs, on va plus mettre des femmes qu'au grand banditisme. Parce que quelque part, je pense que c'est s'il y a un territoire du machisme, c'est encore la police, me semble-t-il. Alors, c'est une impression totalement personnelle, hein, mais j'ai l'impression que la police est restée encore pas très différente de ce qu'elle était il y a 20 ans.
Olivia, c'est un personnage vraiment très très attachant. Elle est aux trousses d'un gros bonnet de la drogue, mouillé dans des affaires entre l'Afrique et l'Europe, ce qui plaira peut-être à certains de nos auditeurs, que l'on connaît, d'ailleurs je parle pas de l'auditeur, mais le personnage en question, sous le délicat surnom de Beau Gosse. Et je disais, c'est vraiment un personnage très attachant, Olivia, d'autant qu'elle va quand même prendre cher dans votre roman. Est-ce que vous diriez, comme quelqu'un que vous connaissez bien, que les emmerdes, ça vole toujours en escadrille ?
En tout cas, les emmerdes qui volent en escadrille, ça attire le romancier. Parce que c'est vrai que, finalement, un emmerde, ça suffit pas. Il en faut plusieurs. Parce que c'est dans cette série d'emmerdes-là que, finalement, le personnage se révèle. De la même façon que un policier, un juge, peut se révéler dans une série de complications. C'est vrai qu'un personnage, on apprend à le connaître quand on le voit réagir à différents emmerdes.
Oui, et là, c'est à la fois emmerde professionnelle, donc il va lui arriver quelque chose d'assez grave. Vous disiez tout à l'heure qu'elle va être entendue par la police des polices, donc on a bien compris qu'il y a une bavure ou quelque chose d'approchant là-dedans, on va pas tout révéler. Puis il y a une emmerde un petit peu plus personnelle, là, qui concerne vraiment sa vie de femme et sa vie de couple. Donc forcément, là, quand on est lecteur, on se dit, ça y est, quoi. L'écrivain, il a trouvé le filon et il va pouvoir dérouler la plot du suspense tout au long du livre.
Ben, je suis pas sûr que ce soit déroulé aussi simplement, naturellement que ça aurait pu l'être. J'aime bien les brisures dans les narrations. J'aime bien les choses qui se complexifie au fur et à mesure qu'on tire la pelote, qu'on tire le fil, et c'est ça qui m'amuse en fait. Au départ, vous savez, quand on écrit un livre, pour répondre à vos questions de tout à l'heure, on se dit pas tiens, je vais décrire un candidat à la présidentielle, tiens, je vais décrire quelqu'un qui pourrait ressembler à des gens que j'ai vus, ou tiens, je vais raconter les stupes. D'abord, on se dit, je vais essayer de trouver un ou deux personnages qui tiennent la route. Et puis, on va essayer de construire une intrigue qui puisse les réunir, ces personnages-là. Et notre seul objectif, pour même démentir ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément de montrer comment ça se passait à une époque, c'est déjà d'arriver au bout de l'histoire, d'arriver au bout de son livre. Et quand on arrive au bout, on est déjà bien content.
Oui, mais le bout du livre, l'idée, le dénouement, vous l'avez avant de commencer à écrire ou bien il intervient en cours de travail d'écriture ?
On l'a dans les grandes lignes. Enfin, moi, je l'ai dans les grandes lignes, mais vraiment, je rentre pas dans les détails. Et surtout, je ne sais pas comment je vais y arriver.
Alors, comment vous vérifiez la cohérence de ce que vous écrivez ?
Bah déjà, une fois que j'ai fini, je relis et je retravaille et je supprime des phrases et des phrases et des mots et même des péripéties. Et puis, surtout pendant qu'on écrit, moi, je passe mon temps à réfléchir en me disant, j'ai ce point A, je veux aller à B, est-ce que déjà c'est compatible et comment je vais y arriver? Et une fois que j'ai trouvé un truc, je me relis. Déjà, quand je commence à écrire, je relis toujours les 5 ou 6 pages que j'ai écrites la dernière fois que j'ai écrit. Et si ça ne me plaît pas, j'y reviens, j'efface.
Mais vous faites des schémas avec des flèches entre les différents personnages pour bien montrer que tout cela est cohérent?
Dans ma tête, beaucoup. Sur le papier, pas beaucoup. En fait, c'est beaucoup dans ma tête. Hein. Mais c'est ça que j'aime bien. C'est-à-dire que quand je me couche, quand je suis parfois dans un demi-sommeil, il y a des péripéties qui se présentent à moi, que parfois j'oublie le matin, mais parfois non. Et en général, quand je les ai oubliés, c'est que c'était pas bon. J'ai essayé tout. J'ai essayé aussi de mettre le petit carnet juste sur la table de nuit pour que, quand l'idée vienne, je puisse la noter tout de suite. Et j'ai remarqué que quand je note ou quand j'ai eu le carnet, l'idée ne venait plus. Donc finalement, j'ai fait confiance vraiment à mon cerveau là. Et c'est ça que j'aime bien. C'est comme un peu un joueur d'échecs qui, au moment où son adversaire est en train d'avancer, le fou se dit qu'est-ce que je vais faire, et s'il met le fou à tel endroit, je vais faire ça, et s'il bouge le cavalier, je vais faire comme ça, etc. Et pour moi, l'œuvre du romancier, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que on avance soi-même, c'est comme une partie d'échecs qu'on jouerait avec soi-même, quoi. On avance le pion et on se dit qu'est-ce que je vais faire, comment je vais bien pouvoir essayer de trouver une parade intelligente.
Mais la mer s'avance pas, et non crève à rester là. Et le funambule, beau qu'il est, marchant sur son fil. Mais Charlie disait l'albatros, il est mort à marcher sur la terre. Mais c'est pas fini, on va continuer à voler dans les airs. Et les supermarchés, pour nous donner l'air de ne pas rien faire et pour manger. On va s'aimer encore, là pendant des années. Moi j'étais là, moi, monsieur. Et puis il y avait Ginette, qui va sans guinguette, qui a toujours un verre d'avance, des fois qu'on ferme la dernière porte. C'est pour rêver, faire la fête. Il y a les musiciens sur les tréteaux, tôt ou tard, ça va s'écrouler, mais leur histoire. Leur histoire, on s'en fout, on s'en fout. Oh! Et à Ginette, qui continue à tourner. Allez, Ginette, allez, la belle. Allez, Ginette.
Ginette, tête raide dans VMDN sur RFI. Alors ça, Eric Alphen, c'est la chanson que votre personnage, la commissaire Olivia Guimard, écoute pendant une planque. Alors je me suis demandé, mais où êtes-vous allé chercher cette idée de mettre Ginette dans la voiture pendant la planque?
Voilà, alors les têtes raides, pour moi, c'est un groupe qui est pas assez connu, donc je voulais le faire connaître. Son chanteur, il est adorable, je le connais un peu, et c'est vraiment un chic type. Il y a un côté Brel, en plus, assez beau. Et puis, mon personnage, elle aime la chanson française. À un autre moment, elle écoute Vincent Delerme.
Oui.
Et voilà, je trouvais ça... Je sais pas ce qu'écoutent les flics dans les séries. J'avoue que je regarde pas tant que ça, en fait, des séries télé.
Mais vous êtes pas dans la voiture avec eux. De toute façon, ça vous est jamais arrivé d'assister à une planque?
Ah, si, bien sûr.
Si, quand même. Oui. Ils écoutent de la chanson française, les flics, pendant une planque?
Oui, j'écoute de, il y a tout, hein. Ouais, absolument. Moi, une fois, j'étais avec des flics, qui allaient faire une perquise à 6h du matin, et ils écoutaient Les Loups de Reggiani.
Ah oui, ça tombe bien. Voilà. Ça tombe bien. Alors dans votre livre, on est donc
comme quoi il faut se méfier des simplifications abusives.
Absolument. Alors on est effectivement dans la voiture de vos personnages, on est dans leur tête. Surtout, il y a des scènes d'action, il y a des opérations de police plus ou moins réussies. Je parle pour le flic, hein, pas pour le romancier. Hein. Il y a des scènes de filature aussi, et tout ça dans un contexte dans lequel l'office de répression des stupes est donc en émoi à cause d'une affaire liée aux indics. Donc là, on pense un petit peu à l'affaire Néret. Bref, on est vraiment dans les arcane de la police, mais aussi dans celle de la justice. Donc on va en venir à votre personnage de juge qu'on évoquait tout à l'heure, le juge Jonas Barthes. Alors il manque pas de boulot, hein, parce que les dossiers s'empilent sur son bureau. Il travaille sur plusieurs affaires en même temps. Ça aussi c'est intéressant, parce que vous présentez souvent ces affaires au lecteur. Alors ça dure une page, une demi-page à peine, et à chaque fois le paragraphe en question commence par la même formule: voilà l'affaire, deux points, et puis vous racontez. Donc on a vraiment une histoire dans l'histoire. Il adore, ce juge, passer d'un dossier à un autre, vous aussi, quand vous étiez à l'instruction?
Ah ben j'adorerais, oui, absolument.
Parce qu'on se dit, mais c'est très compliqué de pouvoir se plonger dans toutes ces affaires, de pouvoir bien faire son boulot avec autant de fer au feu.
Alors je vais pas dire que c'est parce que c'est compliqué que c'est intéressant,
oui.
Mais un tout petit peu quand même. C'est-à-dire que se spécialiser, par exemple, à un moment, j'avais été tenté d'aller au pôle financier à Paris. Mais dans ce cas-là, les juges financiers ne font que des affaires de corruption, des affaires financières. Et moi, c'est ça que j'ai aimé quand j'étais juge d'instruction en banlieue. C'est que je passais d'une affaire financière à une affaire de stup, à une affaire de meurtre, à une affaire de mœurs, à une affaire d'escroquerie. Et c'est ça qui est intéressant. Et parfois, quand on dit le juge dans telle affaire a mis en examen, etc., l'auditeur qui entend ça à la radio a tendance à croire que le juge d'instruction n'a qu'un seul dossier en même temps. Or, il en a environ une centaine, et c'est ça que j'ai voulu montrer. Le quotidien d'un juge, c'est vraiment de passer d'un dossier à un autre avec la même envie, on parlait de l'envie tout à l'heure, avec la même pugnacité si besoin est, avec la même froideur aussi, parce que la qualité d'un juge, et notamment d'un juge d'instruction, c'est de rester froid, de rester neutre. Je dis souvent qu'un juge d'instruction, s'il lui arrive de trouver un braqueur sympa et une victime de viol chiante, il doit évidemment pas mener son enquête en fonction de ces critères-là. Et il doit rester le plus souvent froid. Et cette froideur, elle passe elle aussi d'un dossier à un autre. Et c'est ça qui est intéressant dans le travail d'un juge d'instruction. C'est passer d'un truand, d'un braqueur, à un escroc, à une victime, avec la même absence d'empathie, mais la même curiosité.
Voilà, curiosité, parce que le juge d'instruction, on l'appelle le curieux, hein, donc c'est le surnom, effectivement, en argot du juge d'instruction. Alors on est dans le bureau, hein, du juge Barthes, dans le roman, hein, donc avec lui, avec sa greffière, avec les prévenus, avec les témoins, avec les avocats aussi qu'il reçoit. Il y a quelques petits trucs d'interrogatoire. Vous parlez de la froideur à l'instant, mais il y a aussi le coq à l'âne. Alors ça, vous dites, c'est le béaba du juge d'instruction.
Voilà, de la même façon que tout à l'heure, vous
l'idée,
me demandiez
c'est de déstabiliser un petit peu les gens.
Voilà, vous me demandiez tout à l'heure si le romancier, c'est pas facile finalement une fois qu'il a son intrigue de la dérouler. Ben, de la même façon, le juge d'instruction, il doit pas être trop prévisible, parce qu'autrement, celui qui éventuellement lui ment en face de lui verrait comment bien mentir et préparerait le terrain. Et le coq à l'âne, c'est-à-dire passer d'un sujet. Tiens, c'était bien le dernier livre que vous avez lu. Ah, alors cette femme-là, vous l'avez violée. Ça déstabilise, et parfois c'est dans la déstabilisation qu'on voit se révéler les caractères et éventuellement les menteurs.
On va se plonger dans l'une des scènes d'interrogatoire du livre, Eric Alphen. Nous sommes cette fois à la page 300.
La difficulté, c'est de savoir quand noter, de trouver le moment adéquat pour se tourner vers la greffière afin de lui dicter. Au fur et à mesure, c'est la certitude de ne rien oublier, de retranscrire au mieux, non seulement le fond, mais aussi la forme, de coller au maximum avec les mots employés. Mais grand est alors le risque de couper les gens dans leur mouvement, de les interrompre juste au moment où, enfin détendus et portés par leur élan, ils vont peut-être lâcher l'information importante, celle de nature à changer du tout au tout l'appréhension d'un dossier. D'où l'autre méthode, qui nécessite plus d'expérience et de mémoire. Tout garder dans un coin de la tête, quitte à noter à la main quelques mots-clés, puis ne dicter qu'à la fin, au terme de l'épanchement. C'est ce que Barthes fait notamment avec les victimes de viol, pour leur permettre de se défaire sans trop de dommages de ces mots qui les abîment. C'est la marche qu'ils décident de suivre avec les Caldara.
J'étais fière de mon fils, vous ne pouvez pas imaginer.
Poursuit Madame Caldara.
J'étais fière de moi aussi, de l'avoir si bien élevé. Il était bon élève, serviable, gentil. Je le montrais en exemple à son frère et à sa sœur. On pouvait compter sur lui. Et puis...
Oui. Nouvelle pause. Nouvel échange de regards. Après quoi, passage de témoin. C'est monsieur qui poursuit.
Vous connaissez Chateaubriand, monsieur le juge ?
L'écrivain ?
Vous l'avez lu ?
De surprise en surprise avec ce couple. Les mémoires d'outre-tombe, oui.
René ?
Non, mais...
Vous allez voir, le personnage principal, René, donc, se décrit en disant qu'il ne peut guère se plaindre que des mots qu'il se fait à lui-même.
Et le rapport avec...
Cette phrase aurait pu tout à fait s'appliquer à Lorenzo. Il avait tout pour lui, on vous l'a dit, intelligent, beau, talentueux, mais il a fait mauvais usage de tout ce patrimoine, de ses facilités. Il s'est gâché tout seul.
Pause, encore. Le regard, les mains qui tremblent, l'émotion, Barthes s'en méfie. Il lui est parfois arrivé de ressentir de la sympathie pour un braqueur qui a fait du mal et de l'agacement pour une victime qui en a subi. Injustice à laquelle il serait vain de s'opposer. Pas une raison, fort heureusement, pour libérer l'un et maltraiter l'autre. Froideur, qualité numéro 1, foin de l'émotion.
Alors, ce que vous disiez vous-même il y a un instant, Eric Alphen, mais on est obligé de se poser la question, ce juge d'instruction, il n'en est pas moins homme. Donc lui aussi, il a des émotions, même s'il veut prendre le plus de recul possible. Est-ce qu'on ne touche pas là, justement, la limite de l'humain dans un travail, dans une tâche comme celle-ci ?
Alors, je pense, j'en suis pas certain, mais qu'à force d'être plongé dans ce genre d'histoires qui sont évidemment pas toujours gaies, le magistrat, et en particulier le juge d'instruction, a tendance à perdre un petit peu quand même de sa force émotionnelle. On se blinde aussi pour pouvoir supporter des choses. Et vous savez, à la chambre d'instruction, j'étais au terrorisme il y a 3 ou 4 ans, et à un moment j'ai vu une vidéo d'une exécution par Daesh. Et si on ne se blinde pas un peu, on peut pas les voir, ces images-là. Et donc le juge d'instruction, au bout d'un moment, perd un peu de son émotion. Alors je sais pas s'il faut le regretter ou pas. Et donc il reste humain, mais il est quand même bien bloqué par la robe au moins symbolique qu'il porte.
Alors Eric Alphen, le livre, vous l'avez placé sous le haut patronage de Sun Tzu et de Machiavel, autrement dit hein, de l'art de la guerre et du prince, évaluer les forces et les faiblesses de l'adversaire, le provoquer tout en ayant le sens de l'État. C'est ce qui finalement rapproche la justice et le politique.
Alors le juge, je ne crois pas qu'il fasse la guerre et je ne crois pas qu'il soit...
Ah, ben, un juge d'instruction, quand il met quelqu'un sur le grill, il doit y avoir une forme de combat quand même.
Mais pas tant que ça, en fait. Et si combat il y a, malheureusement, c'est parfois un peu déséquilibré, parce que le juge a quand même beaucoup plus d'armes que celui qui est en face de lui. Donc, ça, pour moi, ça s'applique quand même vraiment à une conquête électorale et peut-être éventuellement aussi à une stratégie d'enquête policière. Mais le juge, moins quand même. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que bon, il n'y a pas que des scènes un peu... figé de juge d'instruction et peut-être un peu sérieux sur la façon dont le juge d'instruction mène ses dossiers. Il y a aussi beaucoup d'humains, il y a du mouvement, il y a les personnages qui peuvent se trahir et se connaître. Et c'est ça que j'aime aussi dans un roman, c'est quand il y a différentes pages qui sont totalement différentes.
Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, c'est une bonne idée?
Je sais pas si c'est une bonne idée, en tout cas c'est surprenant.
Ouais, j'ai essayé de passer du coq à l'âne.
Voilà.
Je sais pas si vous avez remarqué. Mais...
Voilà. Non, mais après c'est compliqué pour un juge en activité de dire de critiquer ou pas son garde des sceaux. Disons que il va falloir le juger aux actes. Donc nous attendons avec confiance, mais également avec intérêt ce qu'il va pouvoir faire.
Il aurait l'intention de séparer les magistrats du siège et les magistrats du parquet.
C'est quelque chose que vous approuvez. Mais c'est beaucoup plus compliqué parce que quand on commence à s'intéresser au statut du parquet et notamment à son indépendance, ce qui revient dans certains pays européens à faire des membres du parquet les enquêteurs et les enquêteurs indépendants, du coup se pose la question très vite de l'existence ou pas du juge d'instruction. Puisque dans les pays, notamment par exemple je pense à l'Italie, qui ont fait un parquet indépendant, aussitôt ils ont supprimé le juge d'instruction. Donc il faut bien savoir où on met les pieds et effectivement un parquet indépendant veut dire à moyen terme que l'un des deux enquêteurs, le parquetier ou le juge d'instruction, va forcément disparaître.
Et ça veut dire qu'il n'y a plus de politique pénale aussi? Est-ce que c'est pas le risque à terme d'un gouvernement des juges?
Alors, gouvernement des juges, je ne sais pas, mais il est évident qu'il faut une politique pénale qui s'applique de la même façon sur l'ensemble du territoire et que donc, quand on fait un parquet indépendant, on ne peut plus la mener à terme, cette politique pénale. Cela étant, je n'ai pas entendu le nouveau garde des Sceaux dire qu'il voulait faire un parquet indépendant. Il veut s'occuper du statut du parquet. Il veut une justice indépendante. Il s'est bien gardé d'affirmer qu'il voulait un parquet indépendant. Il veut deux statuts différents. Il veut peut-être deux écoles différentes, si tant est qu'il veut garder l'école de la magistrature. Et là-dessus, on peut être d'accord avec lui, c'est-à-dire que un juge du siège n'est pas un parquetier. Un juge du siège va apprendre et va mener un métier différent de celui du parquetier.
Et un procureur qui intervient en pleine campagne présidentielle dans une affaire en cours, est-ce que c'est gênant? Parce qu'il se pose la question, le juge Bard, dans le livre Éric Elfen.
Oui, alors il peut se poser la question dans le roman. Dans la réalité, il n'y a pas eu forcément un parquet qui est intervenu. Il y a eu une plainte.
Fait référence à l'affaire Fillon. Là,
voilà, j'ai bien compris. Il y a eu un procureur financier qui s'est expliqué. Vous savez, elle a rien dit d'extraordinaire, Madame Houlette, à savoir que au parquet, contrairement au siège, effectivement, le parquet n'est pas indépendant. Donc, le supérieur hiérarchique peut tout à fait normalement parler, discuter avec un premier substitut, un procureur financier ou quelqu'un du parquet. Donc il n'y a eu aucune révélation finalement. Mmh. Ce qui est absolument interdit depuis des années, par la pratique et non pas par les textes, c'est le pouvoir politique lui-même qui intervient sur une affaire individuelle. Et je ne crois pas que dans l'affaire Fillon, il y ait eu des gens qui ont dit que le pouvoir politique était intervenu.
Et est-ce que le calendrier judiciaire doit tenir compte du calendrier électoral?
Pendant longtemps, les juges d'instruction qui avaient des affaires politiques tenaient compte du calendrier. Parce que, effectivement, et moi le premier, on n'avait pas à intervenir dans le choix des électeurs. Mais il s'est passé deux choses. D'abord, la multiplication des affaires politico-financières, qui fait que si on se met des freins à un moment donné, on ne peut plus jamais instruire. Et la deuxième chose, c'est que on est maintenant dans un pays où il y a quasiment des échéances électorales tous les ans.
Donc ça devient compliqué.
Voilà.
Merci beaucoup Éric Elfen d'être passé nous voir. La faiblesse du maillon, votre nouveau roman vient de sortir aux éditions Rivage. Merci beaucoup.
C'est moi.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Et on part à Moscou. La galerie Tretiakov a rouvert ses portes ce mardi 7 juillet après quasiment 4 mois de fermeture. Épidémie de Covid-19 oblige. Ses visiteurs peuvent y découvrir une grande exposition initialement programmée au mois d'avril. L'exposition consacrée à cette période durant laquelle l'URSS était dirigée par Léonid Brejnev. Elle porte un nom, cette période, Zastoy, la stagnation. Visite guidée avec notre correspondant en Russie, Étienne Bouche.
Le nom de l'exposition fait référence à la célèbre phrase d'un anthropologue russe. C'était pour toujours jusqu'à ce que tout se termine. Не навсегда, pas pour toujours, sonne comme un slogan détourné. à l'image de ceux de Comar et Mélamide. Ce duo d'artistes tourne en dérision la rhétorique éculée du régime soviétique. La parole publique est un simulacre d'expression, la vraie vie, elle, est ailleurs. Kirill Svetliakov, commissaire de l'exposition.
Initialement, cette exposition devait s'appeler « Double vie » car l'existence était dissociée en deux parties. La vie publique, dans laquelle l'individu accomplissait ses rituels sociaux, et la vie privée, qui était son espace de liberté. Les artistes qui refusaient les commandes idéologiques travaillaient par exemple pour des labels discographiques. Ils dessinaient les pochettes de disques. Beaucoup étaient illustrateurs de romans fantastiques ou de livres pour enfants. Et cette double vie faisait consensus car elle était menée par les dirigeants du parti eux-mêmes.
Durant l'ère Brejnev, rien ne semble amené à changer. Dans un système où la vie culturelle est parasitée par l'idéologie, les artistes développent leur liberté intérieure. L'exposition en présente différentes expressions. La distanciation ironique à travers le courant du Sotsart, le retour à un classicisme qui dialogue avec la grande histoire de l'art, ou encore la recherche de sens dans le mysticisme religieux, comme c'est le cas chez Michael Schwarzman. L'art non officiel est confiné dans les appartements, et il est sévèrement réprimé lorsqu'il brave les interdits. En 1974, à Moscou, les autorités envoient des bulldozers saccager des œuvres exposées sur un terrain vague sans autorisation. Pourtant, malgré l'absence de liberté, les sondages d'opinion révèlent une certaine nostalgie pour cette époque.
L'individu n'était pas confronté aux problèmes économiques. Il n'avait pas de crédit sur le dos et avait de fait le sentiment de ne rien devoir à personne. Il avait un toit et bénéficiait de garanties sociales s'il comptait fonder une famille et avoir des enfants. Il en tirait une forme de liberté car il n'avait pas à penser à l'avenir. Demain sera-t-il comme aujourd'hui ?
En raison du coronavirus, l'exposition s'est retrouvée privée d'œuvres issues de collections étrangères. Des circonstances qui portent préjudice aux artistes de premier plan. Viktor Pivovarov, Ilya Kabakov, Oscar Rabin, tous ont quitté l'Union soviétique avant sa disparition. Dans les années 70, les voix critiques sont autorisées à émigrer et le régime se fige dans le conformisme.
Sur le plan intellectuel, cela a causé un dommage profond, car il n'y avait plus personne en Union soviétique pour formuler une analyse critique de la conscience collective. D'où vient cette stabilité? D'où proviennent ces peurs, ce sentiment de vide, d'aliénation? Tout le monde faisait comme si tout allait bien. Les intellectuels étaient considérés comme des ennemis puisque le système ne tolérait pas la critique.
L'illustration de cette période pourrait être ce court-métrage animé d'Andrei Rjanovski. L'unique personnage fait l'acquisition d'une grande armoire. Il y déplace ses meubles et décide de s'y installer, avec pour seule ouverture sur le monde un ciel bleu reproduit sur une toile. Mais pour Zelfira Tregulova, la directrice de la galerie Tretiakov, l'ère Brejnev est un objet d'étude qui mérite d'être réévalué.
Aujourd'hui, la stagnation est perçue comme une période où tout était gris et ennuyeux, issu d'un même tonneau. Pourtant, cette représentation d'une impasse artistique est erronée. Nos références nationales, celles qui durant la perestroïka, sont devenues des parties intégrantes de la culture mondiale. Elles sont apparues sous l'ère Brejnev.
Il y a quelques jours, Vladimir Poutine faisait approuver une réforme de la Constitution russe. Un amendement décisif lui donne la possibilité de rester à la tête du pays pour encore plusieurs années. Le musée l'assure, aucune volonté d'établir un parallèle. Au terme de son mandat en cours, l'actuel président aura dépassé la longévité de Brejnev.
Reportage d'Étienne Bouche à Moscou. Dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve demain avec l'écrivain et scientifique Joël de Ronay pour un livre rafraîchissant, Son petit éloge du surf, paru aux éditions François Bourin. Il continue d'ailleurs lui-même à surfer. Il était l'un des précurseurs du surf en France. À demain, vous m'en direz des nouvelles.